le contrebandier. Ayant longtemps suivi le sentier de montagne, distrait, j'avais gagné la frontière d'Espagne, et j'avais pris au bout du pont la place où bien souvent près du troupeau qui broute, j'écoute ce que dit le douanier, j'écoute ce que le muletier répond. Toujours la même scène ingénument éclate. Le petit gabelou, galonné d'écarlate, avec un sourire entendu, écoute le récit que l'autre lui rabâche, puis va vers la charrette, sous un cuir de bâche, trouve le flacon défendu. Ce jour-là, c'était l'heure où s'enflamment les vitres. Le grillon dont l'amour fait chanter les élytres avec le grillon alterné, comme un berger d'églogue avec un autre alterne. Déjà le voiturier allumait sa lanterne, tout le soir sentait le jeûner. Parfois de ces garçons passés qui sans rien dire, glabrent la cigarette au coin de leur sourire, vont à pas souples et prudents, de ces filles riées si brunes sous les branches, que dans l'ombre on ne peut voir que deux choses blanches, leurs espadrilles et leurs dents. Et j'aperçus venir un vieillard maigre et brusque, un de ces paysans dont le regard s'embusque sous un béret qui se rabat, feignant de ramasser des pompons de platane et trottiner courbé derrière un petit âne qui portait un sac sur son bas. L'âne disparaissait sous le grand sac champêtre. Au moment où le vieux allait passer peut-être, inoffensif et toussant, le douanier n'ayant eu vers lui qu'un regard vague, l'âne fit un écart, et soudain une dague tomba sur le sol en tintant. Une très vieille dague espagnole. Et puis, comme l'âne faisait, malgré les efforts du pauvre homme, des bonds de poulain andalou, on vit un ancien casque en forme d'astrolabe et deux longs éperons de style presque arabe tomber au pied du gabelou. Et comme l'âne, ému par ces nouveaux vacarmes, ruait, chaque ruade éparpilla des armes. Et tout le sac s'ouvrant dans l'air, ce fut pendant qu'au bruit accourait des marmailles, un envol de rivets, de tassettes, de mailles, un feu d'artifice de fer. Quoi, c'était dans ce sac, sous une avoine fourbe, des armes que cachait ce vieillard qui se courbe et craintivement s'amoindrit? Prépare-t-on la guerre au fond de la vallée? Bien veut-on passer une armure volée à l'armeria de Madrid? Quelle armure est-ce là qui tombe et se bosselle? La courroie a souvent fait place à la ficelle. Les boucles n'ont plus d'ardillon. Quelle est cette rapière, comme elle est usée? La coquille brimballe autour de la fusée. La garde est veuve de Quillon. Une jambe de fer dont le genou se rouille, en rencontrant le roc un instant s'agenouille. Et de ce fantastique sac, on croit voir sur le sol rose de crépuscule tomber un chevalier qui se désarticule avec un bruit de bric-à-brac. La rondache, roulant comme un cerceau superbe, s'échappe. Un gantelet crispe ses doigts sur l'herbe où le rejoint un vieux houzeau. L'âne bondit toujours et cependant à terre une cuirasse à l'air d'un grand coléoptère vidé par le bec d'un oiseau. Enfin, de ce ballot que chaque bond déballe, jaillit un cuivre étrange, une vieille cymbale, une sorte d'astre échancré. On ne sait quel plateau de balance fantasque luisant plat comme un plat martelé, comme un casque fourbi, comme un vase sacré. Et quand tout eut roulé devant lui de l'air digne qu'on prend quand on observe, à regret la consigne, le douanier recula d'un pas. Puis, que pouvaient avoir de terribles ces armes qu'un vieillard ramassait en les couvrant de larmes? Puis il dit: ça ne passe pas. Chacun aida le vieux, une fille d'auberge ramassa la rondache, un enfant la flamberge, et lorsque tout fut ramassé, le vieux, s'étant laissé sur les bras tout remettre, car l'âne, en bondissant, avait fui loin du maître, s'éloigna pesant et cassé. Et le douanier s'en fut boire avec une fille, la nisette espagnole où trempe une brindille canture ou du sucre candi. Moi je suivis le vieux. Il allait le dos triste. Bientôt il se crut seul sous le ciel d'améthyste, et je vis qu'il avait grandi. Oui, l'homme maintenant, au sens sa silhouette droit, comme s'il savait aussi bien qu'un poète que lorsqu'on se retrouve seul, il n'est pas de fierté que l'on ne récupère. Il n'avait plus l'air d'un paysan et d'un grand-père, mais d'un seigneur et d'un aïeul. Le vent du sud soufflait sa brûlante caresse, et je suivais ce vieux en murmurant « serait-ce ? » Tout d'un coup, je me dis « mais c'est !» et me mis à courir à travers la campagne, pâle de voir que plus il entrait en Espagne, plus le vieil homme grandissait. Il jeta son béret, hocha sa tête grise, puis comme s'il avait entendu, dans la brise, le nom que je n'avais pas dit, il posa sur le sol ses armes en silence, se coiffa fièrement du plateau de balance, et se retournant, m'attendit. Nous étions seuls, tous les deux, au milieu d'une lande, basse sur l'horizon, la lune était si grande que tout prenait un air sorcier. Et le vieux dépouillant sa cape paysanne m'apparut sec, vêtu d'une stricte basane, et jambé comme un échassier. Alors je reconnus sa pauvre sobre veste, la beauté de son front, la largeur de son geste, et la jeunesse de ses yeux. Et je crus que j'allais trouver des mots sans nombre, mais tremblant, je ne pus que m'incliner dans l'ombre en disant le nom de ce vieux. À son nom, il grandit encore, mit sur sa lèvre un long doigt sarmenteux qui grelottait de fièvre, sourit un peu de mon émoi, puis avec le plus noble et touchant savoir-vivre, ôta gravement sa cymbale de cuivre et me dit « Eh bien, oui, c'est moi. » Je vis sa tête avec l'auréole immortelle que lui font en tournant sans cesse derrière elle des ailes de moulin à vent. « Mais, seigneur bachelier, prononça-t-il, tandis que très digne, il remettait sur sa tête le disque. « Pardonnez à votre servant si la profession qu'il exerce l'oblige à demeurer coiffé d'un armé. »« Armé, dis-je. Car je doute qu'un bachelier, le fut-il de Paris qui vaut bien Salamanque, prenne un armé auquel la montonnière manque pour l'obscur bassin d'un barbier. » Il se tut un instant, puis parlant par saccades en ce langage où la Sierra mit ses cascades et l'Alhambra ses rossignols. « Seigneur, je renonce à traduire le flegme, la morgue qui redonde, et le ton d'apophtegme et les jeux de mots espagnols. Seigneur, mon œil vous scrute au moment qu'il vous toise. Vous n'êtes pas bien grand, mais votre âme courtoise est de celle que nous aimons. Eh bien, prétendra-t-on encore que j'exagère quand je dis que je suis chevalier errant? J'erre depuis 60 ans dans ces monts. Je les ai parcourus de la rune à Vénasque, des pays catalans jusqu'à ce pays basque dont les pommiers sont pleins de gui. Là, j'ai des 12 pères vu les 12 ombres tristes, et j'ai causé du temps des batailles carlistes avec Zumalacárregui. Fredonnant le vieillard des rois de Pamplune, buvant le lait de chèvre et le rayon de lune au creux de l'âme et de la main, dormant contre la meule où l'on plante une perche, j'erre. J'erre, seigneur, dans ces monts où je cherche un passage, un col, un chemin. Je voudrais les franchir, car la brise m'apporte je ne sais quelle odeur de conscience morte que n'aimerait pas Amadis. Moi qui ne vieillis pas, je sens vieillir l'Europe. Je devine combien s'épaissit et sirope le sang latin si clair jadis. Oui, ce morne géant qu'il faut tuer, se terne Araculiambro de l'époque moderne, l'égoïsme, père de l'ennui, et régner sur le monde une nuit si grognonne que les coiffes de la duène quintagrignogne sont moins noirs que cette nuit. Je veux franchir ces monts, je veux, puisqu'il m'oublie, aller remettre un peu le siècle à la folie. Il a besoin de me revoir et de reboire une eau qu'il n'a plus guère bu. Ma lance doit piquer l'humanité fourbue pour la pousser à l'abreuvoir. Et quant aux villes ruisseaux où l'on se désaltère, je dois, dans leur eau grise où roule tant de terre, qui ne sont jamais lumineux, je dois, dans leur eau fade où s'affaiblit la race, aller jeter un clou de ma vieille carcasse pour les rendre ferrugineux. En vérité, seigneur bachelier de mon âme, je ne suis pas content d'une Europe qui blâme les héroïsmes superflus. Il est temps que j'y entre, et c'est à quoi je pense. Mais on n'y peut entrer qu'en passant par la France, et la France ne m'aime plus. Je ne dis pas cela parce qu'elle me raille, jadis elle raillait tendrement ma ferraille, elle s'en méfie aujourd'hui. Des gens pour nous brouiller veulent lui faire croire qu'un redresseur de tort n'est qu'un chercheur de gloire dans le geste au gouffre conduit. Ah, je voudrais sortir d'Espagne où je pour m'en aller apprendre au vieux monde le songe, l'oubli de soi, l'amour féal, et la façon dont on se fait des dulcinés, mais hélas, il y a toujours des Pyrénées pour les colporteurs d'idéal. Dès qu'elle me verrait, j'aurai la France entière, comme on le sait bien, on veille à la frontière, et toujours quand je veux sortir, quand déguisé, baissant le front, je me dépêche, la grande armure me trahit, que rien n'empêche de briller ou de retentir. C'est en vain qu'en levant ma chère carapace, je la mets dans un sac, parfois pour qu'elle passe, où se débranchent de genêts, de maudits enchanteurs habitant les guérites à percer de l'œil les formes hypocrites, et toujours on la reconnaît. Je sais, vous me direz qu'on croit que je trafique, que j'exporte une amure ancienne et magnifique sans la déclarer. C'est ainsi que toujours, quand le sort injuste me querelle, on veut me l'expliquer de façon naturelle. Mais je ne suis pas fou, merci. Que n'ai-je pour franchir la douane et sa baraque, le zèle sur lequel chevauchait Musarak? J'aurais vite joué le tour. Mais je n'ai qu'un anneau, car votre grâce ignore. Il s'arrêta. Sa voix soudaine fut moins sonore. Que Rosinante est mort un jour. Un jour on me l'a pris, on m'a fait cette peine. Et savez-vous la fin que réservait leur haine à la monture d'un héros? Elle, qu'à voir la mort j'avais habituée, elle est morte, les yeux bandés. On l'a tuée dans une course de taureaux. Une larme coula sur la triste figure. Voilà pourquoi, seigneur bachelier, j'inaugure une chevalerie à pied, mais qui rendrait jaloux Palmerin d'Angleterre, et Roland reviendrait qu'il mettrait pied à terre. Vive Dieu, pour me copier, jusqu'à ce que je puisse, à travers ces montagnes, passer pour aller faire en France des campagnes, je jure de ne plus m'asseoir. Je n'ai plus d'autre but, d'ailleurs, car votre grâce ne sait pas. Et sa voix, soudain, devint plus basse. Que Dulcinée est morte, un soir. Depuis qu'en son cercueil j'ai disposé sa robe, mon existence à moi ne vaut plus une arobe de raisin sec de Malaga. Mais il faut qu'un talon écraseur de couleuvres sonne au chemin du monde, il faut accomplir l'œuvre pour laquelle on vous délégua. Je dois apprendre aux gens des choses en grand nombre, car vous ne savez pas. Sa voix devint plus sombre. Que Sancho vit encore, il vit, celui-là ne meurt pas. Et même, il monte en grade. J'eus tort d'aimer jadis comme un bon camarade le gros homme qui me servit. On l'a laissé passer, lui qui n'avait pas d'armes, tandis que contre moi la peur met ses gendarmes qu'elle voudrait qu'on s'entuplât. Et partout à présent le pansa sur le monde a si soigneusement roulé sa panse ronde qu'à présent partout tout est plat. Sancho règne, il raconte en farce mon histoire, on l'acclame quand il crache dans l'écritoire de Sidamed Ben Angeli. Sur ses genoux cagneux la beauté se dégrafe. Il promulgue sa loi qui n'a qu'un paragraphe. L'enthousiasme est aboli. On ne reconnaît plus le drôle, il a du linge. Des ciseaux ont passé dans sa barbe de singe, il se lave, on le décrasse. Il soupe avec des rois chez des femmes superbes. Il fait des mots au lieu de dire des proverbes, mais c'est toujours Sancho comme ça. Il amuse les gens à ses villes pour permettre qu'il trahisse à la fois le grand Manchois, son maître, et son père, le grand Manchot. Mais il tremble toujours pendant qu'il les fait rire de me voir sur le seuil paraître pour lui dire « Taisez-vous, vous êtes Sancho ». Il le sait bien qu'il l'est, c'est ce qui l'importune, car on profite mal d'une bonne fortune quand on s'en étonne tout bas. Il sait bien quelles sont les choses éternelles et qu'on peut s'amuser à démoder les ailes, les pattes ne voleront pas. Mais hélas, triste et long, j'erre sur la colline. Triste comme une nuit sans bruit de mandoline et long comme un jour sans combat. Je ne peux pas aller interrompre son règne, et sans cesse je sens à mon vieux cœur qui saigne que quelque rêve au loin s'abat. Je ne pourrais passer qu'en laissant mon armure, mais ce serait faiblir admettre une entamure. Mon armure est comme mon nom, et j'en irai là-bas prendre une autre peut-être, non, car je rougirais de ne plus reconnaître la forme de mon non, car à sa silhouette on doit rester fidèle. La mienne me convient si c'est à cause d'elle qu'à la sottise je déplus, qui me dessinerait un bon harnois de guerre. Je n'ai pas confiance au goût de l'antiquaire et Gustave Doré n'est plus. Ah, pour porter là-bas tout l'attirail en fraude, il me faudrait un page, un complice qui rôde par les rocs et les longs ruisseaux. Veux-tu faire avec moi, fils de la contrebande? Puisque pour passer mon armure est trop grande, nous la passerons par morceaux. En un pareil combat, la ruse est exemplaire, il ne laisserait pas, seigneur, de me déplaire que votre grâce me blâme, d'oser requérir d'elle une souplesse à droite, car tout le monde sait que j'ai l'âme aussi droite qu'un fuseau de Guadarrama. Ce n'est qu'un rôle obscur qu'ici je vous propose, mais seigneur, vous aurez à quelque grande cause peut-être un service rendu quand passé par tronçon, que nul n'aura vu luire. On verra tout d'un coup là-bas se reconstruire un paladin inattendu. Si vous faites cela pour la moustache blanche du très ingénieux Hidalgo de la Manche, si vous me consacrez un peu de cette jeune ardeur que le ciel vous octroie, je jure, bachelier, qu'avec bien plus de joie vous regarderez le ciel bleu. Allons, donne ta main. À moi, tu t'affilies, Quoi ? Tu ne sais, dis-tu, que chanter des folies et cueillir les fleurs du buisson ? Chante et cueille des fleurs d'un air de nonchalance. On peut dans un bouquet passer un fer de lance, un signal, dans une chanson. Voici l'heure. La nuit paillette sa basquine, mes armes qu'un reflet d'étoiles damasquines sont là, d'argent d'or et d'airain. À quoi fais-tu passer aujourd'hui la frontière ? Veux-tu le solerai, veux-tu la cubitière, ou bien veux-tu le gorgerin ? Il ouvrait ses longs bras à l'immense envergure. J'hésitais. Mais je vis sur la triste figure une telle déception que... Perle de l'honneur, miroir de la bravoure, m'écriai-je en prenant un air d'estramadour, à votre disposition. Choisis donc. Un rayon toucha, comme un doigt pâle, le plateau de balance ou la vieille cymbale, ou l'espèce d'astre échancré. La chose qui luisait sur le crâne fantasque, l'objet plat comme un plat martelé, comme un casque fourbi, comme un vase sacré. Et je dis, par le corps de Roland, par la griffe de Pantafilando, par le bonnet d'Akif, et par l'âme de Galaor, je choisis. Car la seule illusion m'enivre, et l'objet qui de tous était le plus en cuivre, pour moi sera le plus en or. Je choisis, chevalier, ce qui de ton armure a soulevé le plus de rire et de murmures. C'est ton armée, donne-le-moi. Puisque tu l'as couvert d'un ridicule immense, il convient que ce soit par lui que je commence. Je n'ai pas peur et j'ai la foi. Je jure que ceci n'est pas un plat, barbe, donne. Et le long des rocs tout fleuris de joubarbe, dont parfois j'arrachais un brin le soir même, furtif, et de ma veste brune l'empêchant d'accrocher quelques rayons de lune, j'emportais l'armée de mon bras. Et depuis lors, dans l'ombre où passe un vent morisque, intéressée par l'œuvre, égayée par le risque, je suis toujours sur le sentier. Je cueille des bouquets, je marche, je m'arrête et je chante. Et je dis que je suis un poète, mais je suis un contrebandier.